Salut tout le monde, on est avec le chum Yoann Lennes aujourd'hui parce que ben, on voulait rouler de 1 puis de 2. On voulait parler du combat qui s'en vient au TKO 49 contre Danny Mallett, man, qui est sans aucun doute, probablement, selon moi, le combat le plus attendu de la carte, là, de People's Main Event. Bien que cette carte-là est devenue stacked up là, en esti dans les derniers temps, pour vrai, il y a beaucoup de combats que... qui sont vraiment incroyables, incluant le main event, mais en dehors de ça. Mais quand même, je pense, le combat le plus attendu. Puis, ben, t'en fais partie dès le stade de ta carrière. C'est que t'es quand même encore jeune.
Ouais, je débute encore. Je suis vraiment conscient de ça. Puis, c'est clair que je suis content d'affronter Danny Mallett, surtout à Montréal, devant mon monde. C'est sûr que ça me fait plaisir. Puis, clairement, je suis 3-0, il est 2-0. Ça fait quoi, un an qu'on a monté chez les professionnels, fait que c'est sûr que c'est un gros step pour les deux dans notre carrière, mais je pense que c'est le combat que les gens veulent voir puis que tout le monde attend, fait que ça me fait plaisir de pouvoir offrir ça, là.
Ça va être hot, man. C'est comme je dis, selon moi, là, je le sais que les deux vous travaillez sur toute votre game, t'sais, nécessairement, mais ça, on voit souvent ça à ces niveaux-là, plus c'est TKO, ces niveaux plus régional. Des combats de style vraiment crissement clair.
Ouais.
Ça, ça en est pas mal un selon moi. T'as quelqu'un qui, depuis qu'il est jeune, fait du stand-up, fait du kickboxing, de la boxe. Puis t'as toi, que ta base, c'est la lutte, c'est le jiu, c'est le top control, ground and pound, ces affaires-là. Donc on arrive vraiment avec un gros combat de style, genre striker versus grappler, lutteur contre kickboxer.
Yes.
C'est ça qui rend la chose intéressante, parce que ça va être intéressant de voir justement qui va être capable de forcer son combat sur l'autre.
Ouais, clairement, c'est sûr. Puis oui, je suis un grappler. Oui, ma force dans mes derniers combats, ça a été le jiu-jitsu beaucoup, puis mon contrôle au sol. Par contre, je compte vraiment démontrer dans ce combat-là que je suis capable de me battre debout. Danny Mallett, il y a un bon striking, un très bon striking, puis ça, je lui enlèverai pas. Par contre, je suis pas, j'ai pas peur de la force de frappe de Danny Mallett. J'ai pas peur de ce qui peut se passer debout. Je me suis entraîné extrêmement fort dans les derniers mois avec ma boxe, avec les frères Grant. Je vois mon coach Lévi Labrie 3 fois par semaine. Je fais beaucoup de sparring. J'ai mis ça beaucoup dans ma game. Avant, j'en faisais pas du sparring. Je suis vraiment chanceux de m'être rendu où je suis sans avoir à faire de sparring. Mais moi, le sparring, ça faisait pas partie de ma game, là. Puis là, depuis mon combat contre Bertin, mon sparring, vraiment, à chaque semaine, j'en fais. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir montrer mes aptitudes au niveau du combat debout face à Danny Mallett. Parce que, clairement, oui, à mon dernier combat, j'ai eu beaucoup de lacunes. Je frappais large, c'est certain. Il était arrivé plusieurs choses. J'ai aucune excuse. Je l'ai fait, ce combat-là. C'est comme ça que ça a sorti. Par contre, vous allez voir un Yoann beaucoup plus compact, puis avec des outils qui vont être très variés au combat de TKO 49.
Justement, qu'est-ce que tu penses que le fait d'ajouter du sparring? Parce que justement, je parlais avec Terry Lemaire.
Oh yeah, mon chum Terry, j'ai fait du sparring avec lui.
Exactement,
ouais.
Il m'a dit qu'il était descendu genre au XPN.
Ouais, exact.
Fait du sparring aussi, puis là, j'étais là, t'es allé au XPN, mon gars, qui c'est qui était là? Ben, moi, je le sais, là, qui c'est qui chill là, puis c'est pas du monde de la 16 à Terry Lemaire.
Non, non, non.
Fait que là, ça, il me dit, ben, Chris, c'était genre, il y avait Lennes qui était là, il y avait Yann, Beaulet.
Exactement.
Pat Côté, tous les gros bonhommes de 220 livres. Fait que je me demandais, man, du sparring du monde de même, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que c'est climat du gros sparring.
C'est génial.
Je sais que c'est tapé à la gueule, là. Moi, j'ai pas pu avoir été là, ça
non, se passe. Non, non, puis tu sais, honnêtement, Yann Pellerin, Alex Beaulet, c'est des gars qui ont une bonne boxe, des bons jabs, des jabs rapides, des jabs stiff. C'est exactement ça que ça me prenait. Pas de côté, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience aussi. Fait que, tu sais, d'aller m'entraîner avec des gars comme ça, là, honnêtement, là, je suis vraiment conscient que c'est une chance que j'ai. Puis je suis vraiment, je remercie les gars de m'avoir ouvert la porte de même, là, Pat Côté, Yann Pellerin, Alex Beaulet, de temps en temps, il y a Julien Leblanc qui est là aussi. Puis c'était cool avec Terry Lemaire, je connais pas trop Terry Lemaire, mais je pense que c'est plus un gars qui fait du Muay Thai.
Un malade,
mais,
Terry Lemaire.
Sérieux, c'était vraiment style Thai, c'était genoux, coudes, on était bien équipés, fait que c'est sûr que dans ma game, ça me donne un plus de pouvoir mettre les gants avec des gars comme ça. T'sais, c'est des gars d'expérience, c'est des gars qui ont un bon striking. T'sais, on travaille contre le mur, on travaille au sol, on met beaucoup l'emphase sur le stand-up. Fait que clairement, ça donne un plus à ma game. T'sais. Puis, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte au TKO 49 de pouvoir vraiment démontrer que ma dernière performance m'a fait évoluer encore plus. Puis t'sais, je travaille beaucoup sur les lacunes que j'ai vues dans ce combat-là.
Yes, écoute... l'affaire qui toi, selon moi, là, te différencie de pas mal toutes les autres, là, puis qui me fait dire, Yoann Lennes, moi, je suis pas sûr que tu vas avoir du succès là, dans ce sport-là.
Je vais en avoir, c'est clair.
Puis, c'est à cause de ton éthique de travail, même qui des fois, le gros, je me dis, Chris, mettons, là, j'apprends demain matin qu'il y a un combattant qui est en burn-out, genre, parce qu'il en fait trop. Mais c'est clairement à toi.
Ouais,
avant,
ouais.
C'était Joe Vallée, genre.
Ouais.
Là, c'est clairement à toi. Mais, tu sais, ça marche à cause de justement ta motivation, de la manière que tu penses. Je veux dire, comment t'expliques ça un peu aux gens, man, ton estimation de pensée qui dit qu'il n'y a pas rapport avec aucun autre être humain ou presque sur la terre, là?
Tu sais, dans la vie, je pense que rien n'est possible. Je pense que tout est accessible. Il n'y a rien de facile, mais tout est possible. Puis, tu sais, depuis que j'ai fait du ménage autour de moi, puis que j'ai vraiment décidé de mettre les priorités à la bonne place, de travailler dans le milieu du MMA, je donne des cours de kickboxing 3 fois par semaine, je donne des cours privés, je suis entraîneur à temps plein dans un autre gym. J'ai bâti ma vie autour de ça. Je fais énormément de sacrifices. Je pense que de faire autant de sacrifices, de passer beaucoup de temps seul, pas avoir beaucoup mes chums, je suis pas un gars qui date des filles tout le temps, je suis vraiment focus sur mon sport. Ça fait que d'une certaine manière, quand la coche est entre tu lâches et tu continues, je me rappelle toujours de tous les sacrifices que j'ai faits, puis de combien ça l'a payé, tu sais, man. Mes 5 combats consécutifs amateurs que j'ai gagnés, mes 3 combats professionnels que j'ai gagnés, je suis sur une très belle lancée. Pourquoi? Parce que je travaille fort, parce que je fais des sacrifices, parce que je bâtis toute ma vie autour des arts martiaux mixtes. Puis c'est ça qui fait que ça paye. Fait que la formule gagnante, je l'ai dans les mains. Je suis pas, tu sais, pourquoi j'irais faire autre chose? Je sais que c'est ça qui paye. Puis clairement, plus les camps d'entraînement avancent, plus je réalise que c'est important de me reposer. Parce que des fois, j'arrive à la fin de mes semaines puis je suis brûlé par les 2 bouts. Mais justement, ça fait partie de la maturité. Puis ça fait partie de l'expérience que je prends plus les combats avancent. J'apprends à prendre au moins une journée pour dire comme, bon, je m'en vais en camping, je m'en vais en forêt, je m'en vais relaxer pour revenir plus fort. Tu sais, j'ai fait un voyage au Costa Rica avant qu'on training camp commence pour Danny Mallette. Puis quand je suis revenu, man, j'étais tellement performant parce que j'avais pris 10 jours off. Fait que, tu sais, clairement, tranquillement, je réalise puis... je vois que prendre des pauses, c'est important, tu sais, puis je le mets dans mon horaire, puis ça paye. Mais j'ai toujours été quelqu'un d'extrémiste, puis de, tu sais, un hyperactif. Fait que quand je me mets dans quelque chose, c'est à 100%, puis il n'y a pas de demi-mesure. Si on y va, man, c'est jusqu'au bout. Puis je pense que c'est un sport dans lequel que ça paye d'être comme ça. Puis clairement, à date, ça paye, puis ça va continuer de payer. Je suis pas mal convaincu. Là.
Définitivement, man, c'est une très très belle manière de penser. Puis t'as raison, man, dans que tu dis que des fois quand tu prends un break, tu reviens, man, t'es un malade.
T'es ressourcé.
À chaque fois, moi, une fois par année, je vais à la pêche avec ma mère dans le nord pendant une semaine. Puis c'est dans le bois, le gros. Là. C'est passé Mont-Laurier, on rentre dans le parc de la Vérandrie, pogne un chemin de terre, on fait 90 km là-dedans pour pogner un autre chemin de terre pendant comme 10-12 km. Puis là, on arrive là. Là. Il n'y a pas de TV, il n'y a aucune onde cellulaire proche de là.
La vraie vie, man.
Ah, et puis est-ce qu'on est bien cette semaine-là? Puis, tu sais, je roule pas de la semaine. Avant, on allait courir un peu comme dans les sentiers et tout, mais à cette heure, un peu moins parce que pour vrai, il y a juste, on entend tout le temps des loups la nuit. Là.
Ah.
Fait que, tu sais, on va moyen de chiller, genre, à 5 km de notre chalet dans le bois. Parce qu'on sait jamais ce qu'on peut tomber. Tu sais, on est vraiment dans le sauvage. Là. Une journée en revenant de la pêche, man, on est. On se promenait en char sur le chemin, puis un moment donné, gros, il y avait un orignal en avant de nous qui galopait, là, genre ultra tranquillement, puis s'en colle ça, nous autres.
C'est la nature, ça c'est perdu dans le beau milieu du bois, puis.
T'es bien, puis en plus, moi, c'est ma semaine dans l'année que je fume pas, mon gars.
Ok.
Toute la semaine, puis ça fait crissement du bien, man. Puis on dirait que quand je reviens là, de cette semaine-là, là, genre le premier jour que je vais au Jiu, là, je suis un esti de tueur.
Ah ouais,
là,
ouais,
genre, parce que ça fait. Sinon, moi tout, je comme
tout. T'as fait le vide, tu sais, c'est
j'en
important.
J'en fais 2 fois par jour du Jiu, les jours que je travaille pas le soir. Les jours que je travaille, j'en fais une fois. Tu sais, je fais comme 8-9 trainings de Jiu par semaine. Il y a peut-être une journée que j'en fais pas. C'est vrai, man, des fois, juste ça me brûle que le tabarnak. Fait que je me demande tout comment tu fais pour faire tes shit.
Mais tu sais, j'aime ça aussi. Je me nourris de ça, là, tu comprends? Genre. C'est sûr qu'après mes journées, je suis fatigué le soir quand je me couche. Par contre, j'ai juste hâte de me coucher pour me lever le lendemain matin. Tu sais, ça m'arrive jamais de me lever un matin et de faire comme « Ah, ça me tente pas aujourd'hui. » Ça m'arrive jamais, là. J'ai hâte de faire mes journées, j'ai hâte d'aller faire mon jiu, j'ai hâte d'aller faire ma lutte, j'ai hâte de venir striker, j'ai hâte d'aller faire du sparring, j'ai hâte. Tu comprends? Fait que je pense que la recette gagnante, c'est que je fais ce que j'aime. Fait que clairement, tu sais, puis le jour, si ça arrive que je vais perdre un combat, ça sera pas parce que je vais pas être prête, ça va être parce que je vais avoir fait une erreur. Tu comprends? Je vais avoir fait une erreur, puis cette erreur-là, ben ça va être à moi de savoir c'était quoi, puis de pas la reproduire. Ça sera jamais parce que je me suis mal entraîné, parce que j'ai pas été prête. Ou... Fait que clairement, tu sais, je sais où ce que je m'en vais, je sais ce que ça prend, puis je suis prête à tout faire les sacrifices pour. Puis à date, ça paye, puis je suis convaincu que ça va continuer à payer.
Ouais, puis perdre, man, moi, je pense que c'est crissement important, mon gars. Là. Pour être vraiment franc avec toi, je pense que le monde qui arrive dans l'UFC avec une ou deux défaites sont pratiquement toujours plus prêtes que le gars qui arrive 7-0, 9-0.
Je suis d'accord.
Parce que fuck, man, quand t'arrives dans l'UFC, t'es invaincu, t'as tout le momentum en arrière de toi, puis là, tu te rends juste compte de c'est quoi le niveau là-bas, puis genre tabarnak, là, tu perds, là, c'est démoralisant. Quand t'as déjà perdu une fois, t'es déjà comme un peu passé à travers de ça.
Ouais.
Puis tout, c'est des fois, c'est ça qui te fait juste ajuster une mini affaire, tu sais, dans ton training, que t'es genre, oh shit, c'est peut-être cette affaire-là, puis là, tu changes ça, puis après, tout est différent, puis, tu sais, les meilleurs, tu sais, tu regardes tous les champions du UFC, là.
Ah, ils ont déjà perdu.
Ils ont deux à quatre défaites, je te dis.
D'accord. Alors,
quatre défaites, c'est rare, mais...
Ouais. Par contre, je pense que c'est important d'être capable d'apprendre dans la victoire aussi. Tu sais, à chaque combat que j'ai fait, j'ai été capable de prendre du recul, de regarder mes combats, puis de me dire... Oui, j'ai gagné, mais il y a ça que j'ai fait de pas correct, il y a ça que je dois travailler. Fait que c'est bien d'apprendre dans la défaite, mais moi, ce que je veux pour le moment, c'est apprendre en gagnant, puis c'est ce que je fais. Puis je suis d'accord avec toi que rendu à l'UFC, moi, ce qui m'a marqué le plus à date avec, mettons, Charles Jourdain puis Marc-André Barriot, c'est des gars qui sont habitués de gérer la pression comme des as à TKO. Que quand c'était des gros shows avec beaucoup de pression, ça allait super bien, puis on se le cachera pas. Marc-André Barriot puis Charles Jourdain, leur premier round à l'UFC, c'était pas les mêmes.
Alors,
c'était pas les mêmes.
Les deux ont été très, très, très inactifs.
Exactement. C'était on dirait que ça les hypnotisait. Puis moi, c'est ça qui m'allume en même temps. Je me dis, oh my God, c'est à quel point ça doit être imposant de faire un round dans l'UFC. Quand tu regardes des gars comme Charles Jourdain puis Marc-André Barriot, qui se sont fait un peu hypnotiser. Puis ils ont pris le dessus par la suite. Ils se sont repris, mais... clairement, c'est big, puis moi, ça m'allume de voir ça.
Ouais, ça nous a fait apprendre bien gros, là, pour vrai, c'est les deux dans l'UFC, là, parce que tous les aspects, j'ai l'impression, parce que trop souvent, on va écouter l'UFC, puis que t'es comme les premiers combats, c'est prelim, que c'est genre du monde, là, puis t'es connais, mais pas tant, puis tu checkes ça pour checker ça, mais ce monde-là, c'est genre Charles Jourdain puis Marc-André Barriot, tu sais, présentement, puis... Ça me fait voir l'affaire, tu sais.
À quel point c'est la classe élite partout dans le monde.
Partout, puis gros, chaque combat, même si c'est le premier combat, c'est prelim, puis genre moi, quand je fais mon analyse, je m'en tabarnak de ce combat.
Ouais.
Tu sais, c'est comme toute la vie de cette personne-là, là, ce combat-là.
Exactement.
C'est que ce gars-là, ça fait comme des mois, là,
qui s'entraîne juste pour ça, puis qui est
malade, puis c'est genre l'accomplissement, genre de sa vie, c'est de rentrer dans l'UFC.
Ouais.
Fait que non, c'est ça, ça te donne un regard différent. Mais Chris, man, faut parler de... Pas du combat, là. Faut parler de tout le reste, man. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça soit une rivalité de même entre toi et l'animalette?
Sérieux, là. Man.
Moi, j'ai l'impression que c'est de ta faute, là.
C'est bon, ouais, c'est
pour
correct.
Être frais, là.
Mais, tu sais, clairement, là, à la base, je pense que. Moi, j'avais vu sur les réseaux sociaux un commentaire de Danny qui riait de mon premier combat contre Yann Jacolin. Rendu là, moi, je m'en fous, ça passe. Puis je veux dire, il y a plein de monde qui rit de mes combats, puis comme ça me stresse pas trop, là. Par la suite, c'est clair que moi, Danny Mallette, je l'avais sur ma liste. Tu comprends? Il était sur ma liste. C'est un nom que j'ai sur ma liste depuis que je suis rentré dans les débuts de TKO. C'est le troisième nom que j'ai sur ma liste. J'avais Jacolin, j'avais Sean Mean. Je pensais que ça allait être Mallette, ça a été Bertin. Là, c'est Mallette. Par la suite, c'est Ergi Sigeta. C'est des noms que j'ai sur ma liste, tu comprends? Il y a beaucoup de monde qui en ont parlé autour de ce combat-là. Tu sais, oui, je l'ai challengé, moi, Danny Mallette, mais je ne l'ai pas challengé irrespectueusement en disant que sa famille, c'était ci ou que c'était un ci, un ça. Tout ce que j'ai dit, c'est Danny Mallette, c'est toi le next. T'es mieux d'être prête. Tu comprends? Je suis jamais rentré dans des détails plus personnels ou des... Tu sais, ma game, c'est pas ça. Ma game, c'est d'aller prendre les combats que je sais que les fans veulent. Puis tout le monde le veut, ce combat-là, entre moi puis Danny Mallette.
Dès le premier jour.
Man. Dès le premier
dès
jour.
Dès que tu t'es battu, le monde t'a dit, lui, va se pogner contre Mallette.
Moi, je suis une bonne tête d'affiche à Montréal. Lui, c'est une grosse tête d'affiche à Québec. On est les deux à 170 livres. On a fait nos parcours amateurs pas mal en même temps. On a monté chez les professionnels en même temps. C'était écrit dans le ciel qu'on allait avoir à s'affronter. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est mettre de l'huile sur le feu pour que, justement, je m'assure que ça soit lui le prochain. Parce que moi, je le veux, Danny Mallette, tu comprends? Je sais que je peux battre ce gars-là. J'ai aucun doute que ce gars-là est très bon. Puis côté striking, ça va être un des meilleurs que je vais avoir à affronter. Par contre, j'ai pas peur de Danny Mallette. Je suis confiant en mes moyens. Puis je sais où ce que je m'en vais. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je connais les siennes. Je le connais par cœur, ce gars-là. Je le sais comment il va réagir. Je le sais que si je fais ci, il va me counter avec ça. Si je fais ça, il va aller de l'autre bord. Je regarde ses vidéos à peu près à chaque jour à Danny Mallette, tu comprends? Fait que, clairement, moi, j'ai jamais voulu lui manquer de respect. Là, on est rendu dans une game où ce que c'est ça, on se manque de respect, ses réseaux sociaux pis tout. Je sais pas si t'as regardé les réseaux sociaux, mais moi, j'embarque jamais là-dedans. Là. Je mets des affaires comme quoi je dis que c'est lui le prochain, mais je commence pas à écrire dans les commentaires que...
Nos amis sont solides pour
ça. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est typique, ticoune un peu, mais regarde, ça fait partie de la game. Pis là, la guerre est prise. Fait que, regarde, c'est correct, on s'en va à la guerre, pis... Je suis bien content qu'il y ait autant d'animosité autour de ce combat-là. Ça va faire vraiment un gros spectacle. Puis quand je vais avoir gagné, ben, ça sera terminé. Puis on passera à autre chose. Là, that's it. Là. C'est, personnellement, Danny Mallette, il m'a rien fait. Là. C'est sûr qu'il y a des choses que, tu sais, comme répondre à mon père sur Facebook. Man, tu fais pas ça, là, man. T'sais, moi, son père, il dirait de la sauce sûrement. J'y répondrais jamais à ses parents. Là. C'est ça, c'est juste. C'est très irrespectueux, mais regarde. Rendu là, il va payer, puis ça va finir là.
Ouais, je pense que... Je ne sais pas si Danny a comme de la stratégie derrière ses attaques, là, pour être franc avec toi, mais je trouve que c'est quand même stratégique en esti de répondre à ton père. Parce que tout le monde le sait que t'es calissement familial. Genre,
ouais.
C'est genre dans ta gimmick, là, pas mal.
Ouais,
là,
ouais,
t'es vraiment très familial comme gars. Puis,
mais lui aussi pense... doit l'être, man, au nombre d'enfants qu'il a, tu sais. Non, mais c'est pas méchant, non, c'est vraiment méchant.
Père, il s'entraîne avec son père aussi.
Ouais, coup, aussi, il s'entraîne avec son père, c'est ça. Puis, regarde, tu sais, ça l'a dépassé un peu les bornes, puis c'est correct comme ça. Puis, tu sais, moi, ça me sert juste de source de motivation pour m'entraîner encore plus fort à chaque jour, puis pousser encore plus. Puis, tu sais, sa tête, elle va être à moi, man. À TKO 49, ça va faire mal, c'est sûr et certain. Puis, je souhaite qu'il puisse se remettre de cette défaite-là. Là.
C'est clair, man. Si, mais ça va être un fight.
Ça va être un bon fight, man. Ça va être une
chose qui est certaine.
Une grosse guerre.
Puis, man, c'est fascinant. J'ai l'impression que. On connaît tous les deux crissement bien vos skills. Puis, tu vas peut-être comprendre ce que je dis ou peut-être pas. Mais moi, je trouve que c'est tout ce qui est alentour de ce combat-là qui est intéressant.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, de savoir, man, si c'est qui a été le plus dans le gym, c'est qui a été qui a fait le plus d'efforts.
C'est qui a fait le plus ses devoirs, qui va être capable d'imposer le plus sa game. C'est qui veut le plus la victoire. On le sait qu'après cette victoire-là, c'est Ergi Sugeta. Puis après Ergi Sugeta, man, c'est pas mal la belt. Puis regarde, on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis ça va être celui qui est prêt à tout donner dans le cage puis à aller jusqu'au bout, man.
Yes, fait que là, on s'en va dans la pure spéculation à partir de maintenant. Fait que là, mettons, tu bats Danny Mallette. Tu bats contre Ergi Sugeta.
Ouais.
I guess que dans le meilleur des mondes, selon toi, ça sera en décembre, ça?
Tout dépendamment de comment ça va se passer le combat, mais clairement, si ça peut se faire en décembre, ça se fera en décembre, ouais. T'sais, moi, j'aime pas être inactif. J'aime ça être actif. Déjà, là, j'ai hâte de me battre parce que je trouve que depuis mon dernier gala, ça fait quand même longtemps, là, fait que... c'est sûr que si ça va très bien, puis ça va bien aller à TKO 49, si je peux me battre en décembre, que mon corps me le permet, je vais me battre en décembre, c'est sûr.
Yes. Ensuite, on a comme entendu un peu là, genre des rumeurs comme quoi Joe Meunier était pas mal de retour,
ouais.
Tu sais.
Ouais. Clairement, si je suis 5-0, j'ai battu Danny Mallette, j'ai battu Ergi Sugeta, puis que j'ai une chance de me battre pour la belt contre Joe Meunier, je vais la prendre. C'est sûr et certain que je vais la prendre.
C'est un gars, quand tu es au 13-heure, tu t'es déjà entraîné
avec lui. J'ai jamais mis les gants avec Joe Meunier. Je sais qu'il est super bon. Là, je veux dire, le gars est allé à l'UFC. Il a un bon striking, des bonnes jambes. C'est un gars de taille. C'est un gars qui a un bon sol aussi. Là, je veux dire,
l'autre gars super stratégique, lui, il est capable de gagner un combat. puis ça a même pas besoin d'être le fun, puis il s'en crisse pour vrai. C'est comme ouais. Lui, il y a une job à aller faire, c'est aller gagner la victoire, puis s'il y a quelqu'un qui veut pas l'engager devant lui, il va juste genre aller chercher ses points, puis tu sais, il est vraiment, ouais, vraiment stratégique, là. Il sait comment gagner un fight.
C'est un gars qui a de l'expérience,
il est à ce niveau-là, il a battu des gros noms, man, tout le long. Sa seule défaite, c'est fucking Colby Covington.
Exact, ouais.
C'est un défi, man, mais je pense, gros, ça pourrait être.
Ben écoute.
Ça pourrait être un combat, man, encore une fois, qui soulève l'intérêt à Chris. Là.
Sans doute. Puis rendu là, tu sais, j'ai des coachs, faut que je parle avec mes coachs, faut qu'on prenne des décisions ensemble, mais. Tu sais, moi, la belt, je la veux, c'est ça qui m'intéresse. Puis, tu sais, si je passe à travers tous les combats, que je suis 5-0, mais, tu sais, je vais être rendu là dans ma carrière d'affronter un gars comme ça. Puis. On verra où est-ce que ça va me mener, mais clairement, j'ai beaucoup de respect pour Jonathan Meunier. Puis c'est un gars qui, s'il y a de quoi, c'est un des meilleurs combattants qu'il n'y a pas. Là, mais si je suis rendu là, je suis rendu là. Puis on va avoir à faire ce qu'on a à faire. Puis on va travailler fort. Puis on va se rendre là. Puis on va faire la bataille.
Ouais, Joe Meunier, pound for pound au Canada, là, c'est comme dans la catégorie des Ronson.
C'est clair.
Malcolm Gordon, tu sais, ces gars-là qui sont
vraiment Chris,
excellent.
Ouais, clairement, clairement.
Ça sera un gros fight, ça, mais il en reste quand même deux à battre avant.
Exactement.
Guy Sigeta, tu penses quoi de lui? Ça, c'est un autre style match-up très intéressant.
Guy Sigeta, c'est un grinder, man. Ça doit être quelqu'un qui ça doit être extrêmement difficile de se battre contre ça parce que.
C'est Khabib canadien.
Exactement.
Il fait pas de dommages, là.
C'est un petit. C'est gaucher qui met constamment de la pression, qui a une grosse lutte, un bon sol, qui doit être un pot de colle dans l'octogone tout le long. Mais il y a des ouvertures encore là, puis ça va être à moi de faire mes devoirs comme il faut. Mais avec Lee comme coach, je suis confiant que même si ça se ramasse au sol, je vais être capable de m'en relever.
Ça va aller au sol entre toi, puis moi, gros. C'est battu contre une black belt de Santos, puis c'est juste collé, c'est lui, Beret, là.
Ouais.
C'est sûr, je pense que c'est ça sa game à lui. Puis genre, autant il est skilled, puis c'est un tabarnak de beaux prospects. Je pense pas que c'est quelqu'un qui, comme toi, oui, il fait ses devoirs, il est prêt pour l'adversaire, mais je pense pas qu'il va adapter sa game à son adversaire. Ben, lui, ça va là pour jouer sa game.
Il y a une game, c'est ça, exactement.
Ça va là pour jouer sa game, puis il pense qu'il va être en mesure de l'appliquer contre tout le monde, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas trop l'air de se poser de questions par rapport à est-ce que j'approche ce combat-là plus de tel ou tel angle. Lui, ça en va en avant, il va manger tes coups de poing dans la face si t'en as une coupe ailleurs donnée.
Ouais, c'est
il
ça.
Va t'en lancer d'autres en retour jusqu'à temps qu'il te colle dans la cage, qu'il te take down, puis la partie de
là, c'est... Par contre, à quel point il va être capable d'encaisser les coups, à quel point, tu sais, s'il se fait toucher comme du monde, tu sais, je veux dire, il y a des ouvertures, puis c'était à moi d'avoir un bon footwork, mais que ça soit rendu là, de bien me déplacer, de garder un bon jab. T'sais, oui, il s'est battu contre Dos Santos, mais tu sais, moi j'ai rien contre Dos Santos, là, c'est bien correct. Là. Par contre, je pense que je passerai à travers Dos Santos moi aussi. Puis, moi je vais le connaître. Moi je connais mes adversaires de A à Z. Là. Fait que si j'ai à me battre contre Sigeta, je vais le savoir qu'est-ce que je vais avoir à faire. Puis il t'a dit, c'est sûr que ça va aller au sol, mais je suis pas convaincu que si je me battrais contre lui, ça irait automatiquement au sol. Je pense que
ça serait fou, man.
Ouais. Mais je pense que j'ai confiance en ma game de lutte, en mon jab, pour être capable de bien me déplacer. Puis rendu là, on verra, mais c'est sûr que si ça va au sol, je vais trouver le moyen de me relever. Puis je fais de la lutte avec Nariman, je fais mon jeu avec Lee. On pousse, puis ça va bien, là, man. Fait que j'ai confiance en mes aptitudes. Je vais passer ma lettre en premier. Après, on va focusser sur Sigeta. Puis on verra la suite où est-ce que ça me mène.
Moi, les gros, des astis de combat de grappler qui grapple pas, tabarnak. Là.
Comme
tuer le monde dans le temps, mais en fin de semaine, là, Makhachev contre Davy Ramos.
Ouais.
Hey, j'étais dessus en temps.
Ouais, ils se sont strikés tout le long. Hein?
Pas voir ça, moi. Ouais. Tu sais, Davy Ramos, sa game debout, c'est genre. Je suis vraiment aggro, vraiment très fort, donc je vais rien faire jusqu'à temps que j'aille un counter parfait qui viendra peut-être jamais. Puis à ce moment-là, je vais peut-être le lancer, mais peut-être pas non plus.
Ouais.
Puis gros, c'est genre, fuck man, c'est comme un des meilleurs lutteurs dans toute le UFC, contre un des meilleurs grapplers dans toute le UFC de Jew. Puis genre, ils ont même pas roulé, tabarnak, c'est quoi la joke?
Ouais,
rouler,
ouais,
esti?
Ouais, ouais.
T'es-tu plate, là?
Ouais, c'est sûr.
Non, ben, t'sais, gros, je sais que toi, t'es là pour gagner tes
affaires. Ouais,
exactement, clairement. Des fois, man, moi je trouve que c'est important autant. Genre, là, quand tu vois un prospect arriver, pis ah, si, genre, Charles Jourdain, il est flashy, mon gars, il knock tout le monde avec des astis de combinaison, pas rapport, pis
ouais.
Puis, tu sais, oui, c'est un bon prospect. Puis, oui, Chris, ce gars-là, il a du talent pur dans lui. Puis, ça sera pas bien dur d'y montrer les bons réflexes dans tout le reste, genre, pour qu'il devienne un assez bon combattant complet. Mais il y a rien qui me scream, genre, top prospect autant que. Un gars qui est juste capable d'arriver là, puis s'il a besoin de faire un assis de combat plate, mais gagner, il va le faire.
Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, qui est parfait, genre, autant qu'il est capable de se battre debout, man, quand c'est à son avantage, qui est capable de lutter avec les gars, puis les amener au sol, puis les dominer là, quand c'est à son avantage, qui est capable de slower le pace, puis il est capable de courir après des gars pendant, genre, 15 minutes sans arrêt, sans gazer, qui est capable de tout faire, puis qui est encore quelqu'un qui s'améliore.
Ouais.
Ça, ces gars-là, man. Quand ça devient des tueurs pour vrai. Là.
Ah, c'est sûr.
Contrairement au gars qui a toujours été un tueur, mais qui n'est pas complet, il faut qu'il devienne complet. T'es mieux de commencer complet, puis après, développer ta game.
Ouais, ta game globale.
Tes petits trucs, tes petites affaires. Que d'être genre un esti de spécialiste, puis développer le reste par après. Sauf si t'es Khabib, mais Khabib, il n'y a juste pas rapport. Mais.
Khabib, c'est une classe à part.
Khabib, le gros, ce que le monde, il comprenne pas, c'est à quel point ce gars-là, c'est genre un athlète pur, incroyable. Tu sais, genre, je sais, contre Poirier, il est debout, là. Puis ils sont là, puis gros, à l'espace de 0.4 secondes, man. Bang, il est dans les jambes du gars. Puis là, Poirier réagit au single leg, vient déjà de se faire double leg.
Son timing était incroyable.
Ouais, son timing est incroyable. Le gars, c'est une des personnes les plus rapides qu'il y a, genre.
Ouais.
Il est explosif, il est fort physiquement. Tu sais, il a des atouts naturels qui ont été donnés à la naissance. Puis en plus, il a travaillé comme une assiette
carte. Des aptitudes solides,
Tu sais, genre, le gars, man, il a... T'sais, genre justement, check Islam Makhachev. Selon moi, c'est que là, il y a des skills crissement similaires à Khabib. C'est juste pas le même genre d'athlète. Fait que le gars, il est juste pas capable de se téléporter des jambes d'un dude.
Ouais.
Mais quand il se met à lutter avec un gars, c'est un des meilleurs lutteurs. Sa technique est incroyable à Islam Makhachev.
Mais c'est la transition de rentrée.
Il y a juste pas la vitesse pure d'un Khabib. Que Khabib, des fois, là, il peut faire une gaffe, mais il va réussir pareil son takedown.
Ouais.
Comme Kamaru Usman.
Il y a des transitions, t'sais, exactement.
Kamaru Usman, c'est un des meilleurs lutteurs collégiales, mais c'est même pas vraiment un bon lutteur. Si tu checkes sa technique par rapport aux autres. C'est juste qu'il est tellement gros, il est tellement fort. Quand il a fermé sa grippe, tu t'en vas à terre. Là.
Exactement.
Même si son entrée était dégueulasse, physique, même si tout était dégueulasse, le gars, il est juste. Fuck you, oublie, t'as amené.
Ah ouais. Il est fort physiquement.
C'est ça, fait que c'est des athlètes de même, mon gars, là, c'est once in a lifetime. Là.
C'est sûr qu'il n'y en a pas gros. Puis
Khabib, le gros, tu sais, c'est quand tu dis que tu peux même pas imaginer une tabarnak de personnes qui pourraient potentiellement le battre. Ouais, genre. Ouais. Avec Tony.
Je me demandais dans ma tête, mais ben, Tony Ferguson, je penserais pas qu'il soit capable de faire quoi que ce soit non plus. Là. Mais je me demandais dans ma tête si un gars comme Khabib était capable de, mettons, je sais que c'est pas la même catégorie de poids, mais tu sais, un gars comme Darren Maia, genre.
Ouais,
mettons tu les mets les deux dans la même catégorie là,
le monde parle de Ortega, mais c'est sûr Maia, le gros, c'est que first il est plus gros, mais c'est
mettons tu les mets pound for pound ensemble, Khabib va être capable de garder Maia au sol tout le temps comme ça puis de faire du ground pound, ou un gars comme Maia va être capable de, tu sais, c'est ça que j'aimerais voir, vraiment un des top en jiu-jitsu est capable de.
Le pire, c'est que je pense que oui, même parce que le fucking... Hey, pourquoi j'ai perdu mon idée, là? C'est la fucking intelligence que je m'en allais dire, man. De qui on parlait? Maia.
Ouais.
Maia, j'ai perdu contre Jake Shields.
OK, ouais.
Jake Shields, on le sait, c'est un nasty de top grappler.
Ouais.
Mais il est plus wrestling style que jiu-jitsu style.
Ouais, fait que...
Il avait gagné vraiment en luttant beaucoup, puis... Tu sais, mettons, quand il réussit à avoir le top, à juste être super tight sur le top, pas faire tant de dommages, mais, tu sais, pas perdre sa position, pas se faire sweep. Fait que oui, je pense que c'est gérable. Mais moi, Tony, man, étrangement, je pense que c'est le gars le plus dangereux contre Khabib parce que c'est un cave, man.
Il fait des affaires.
Pis,
il genre, réfléchit, comme.
Ouais, puis il y a pas de. Ce gars-là, il est pas brisable mentalement, selon moi.
Ouais, ouais.
Ça fait que chaque seconde du combat,
il peut être dangereux.
Même s'il va nécessairement être en train de se faire péter la gueule, il va donner des coups de coude en dessous à Khabib, va peut-être le fendre de là un peu, va lancer des astis de soumission à une planète bizarre. Du 5 à l'île,
tu vois.
Fait que genre, je pense que c'est le gars le plus dangereux à cause de ça. Parce que tu sais, même Dustin Poirier, que tu sais qu'il est tough, entre le deuxième et le troisième, il avait l'air de rien piger dans
après
son
après le point, premier round, il y avait plus de gaz, Poirier. Tu le voyais.
Entre le deuxième et le troisième, il disait assez gauche, man, I just can't get that fucking guy off me, man. Puis tu sais, il était découragé, il était résigné à son sort. Puis je le sais que Tony, c'est le seul qui sera jamais résigné à son sort.
Ouais.
Ça va soit finir qu'il va le soumettre dans un comeback win incroyable. Ou il va se faire péter la gueule pendant 25 minutes, down, genre sans se faire finir nécessairement, mais juste se faire décollisser du tout au tout. Mais il va être content pareil, genre.
Ah, il va avoir fait
ça. Il va avoir essayé tout le long, puis juste ça, ça fait, selon moi, de lui le plus dangereux. Ça, puis Justin Gaethje.
Ouais.
Parce que Justin Gaethje, Il est un lutteur très sous-estimé.
OK.
Puis, gros, Khabib, là, son réflexe, quand il s'est fait taguer par Dustin, c'était de brawler. Là.
Ouais, c'est sûr que
non. Tu peux vraiment te mettre à brawler avec Justin Gaethje.
Ouais, non, c'est sûr que non.
C'est un gars qui est capable de manger un punch, t'en donner un vraiment, vraiment plus gros, c'est bien Justin Gaethje. Là. Je voudrais tellement parler de lui contre Cowboy, mais ça va absolument être fini quand on va sortir ce podcast-là. Fait que
okay.
Je pense que ça sert absolument à rien. Ça fait une demi-heure, mon gars. Je pense qu'on va closer ça là. On va en faire du Jiu, man.
That's it, Jiu-Jitsu, man. Yes, sir.
Thank you, mon Yohan.
Merci à toi. Ça me fait plaisir.
J'ai hâte à ce fight-là.
Ça va être un bon combat.
Yes, sir.
Yes.
Yes, bienvenue tout le monde. On est avec quelqu'un que vous reconnaissez là, absolument. C'est l'homme de l'heure. He is the man of the hour, man. Because, like... Last Monday, I tuned into Ariel Helwani's show, and who did I see there? Tristan Connolly. Then I go to MMA Junkie, read some Tristan Connolly articles. Then I go to MMA Fighting. Damn, some Tristan Connolly content. Bloody Elbow, same thing. You've spoken to everybody. You've been everywhere. And now you're with us. Tristan Connolly, everybody. How you doing, man?
I'm doing good, man. Just, landed here at Edmonton Airport. We got one of my boys, Josh Kowski's fighting in Unified on Friday. So just landed here and looking forward to keep the ball rolling and kick some more asses.
Yeah, no, for sure. Keep the streak going for the camp. And I guess we'll get maybe the chance to touch on that card a little bit because it's a big one, especially for Western Canada. Like almost all the biggest names are there. There are some guys that are real close to the UFC that... May get a shot, but first I wanted to speak to you. I know you've been everywhere and you spoke to everybody, and you probably heard like the same questions asked differently all the time. I just wanted to know, like, when you think about all the crazy shit that probably happened in your life, I just wanted to know how does last week compare to all the crazy shit that happened in your life?
Well, obviously it's been unreal. But I've been doing this for a long time. Obviously, there's more eyes, more interviews, but it's kind of the same stuff I'm used to. You know, I've been saying fighting's fighting's talking's talking. I've been fighting and talking for a long time. I've just been doing a lot more of it, the talking this last week, and there, you know, more eyes on you when I fought. So it's business as usual. My gym's, we got guys fighting. We got work to do. You know, carrying on as usual. I don't have a fancy lifestyle. There's nothing I need to buy. You know, my money's just gonna, it's basically just gonna sit in the bank till I put it towards a house upgrade one day. So nothing really changes. I still gotta grind, still got fights to win. I've still got asses to kick. So just looking forward to carrying the dream on.
Yeah, for sure, because, man, I feel like you just stole that card. Like, it was your hometown card. It was short-notice debut. We know the story now. I won't, like, make you tell it again. Like, you and your team, you were angling for that fight. You needed to do, like, a little bit convincing to get into that position and finally get to that fight. That's what we got to hear in your other interviews, that I don't want to make you say it again, because we've seen it. Everybody listens to Ariel Helwani, especially when, like, there's a Canadian who just stole the show and who's there. So I just wanted to know, like, are you a big student of the game, like, film-wise, watching tape? Because, man, that guy, he's been in the UFC only for one fight before you, but you knew what he was gonna do. Like, you had him figured out, and that's why, like, people see that as such an upset, but I feel like you just went there, you knew what was gonna happen, and it just happened. So I just wanted to know, like, are you big into tape, into all of that stuff? Because, like, you seem to know that guy. Like, you've been seeing him fight for, like, 10, 20 fights.
Yeah, like, yes and no. Really, like, I don't watch a lot of tape, my guys, because guys can change quite a bit. They can come with different game plans for different fighters. You don't want to read too heavily into anything. But, you know, once I found out that I was getting a fight, I watched a couple of his old fights. I'm like, oh, okay, like, I kind of understand what he's going to try and do to an extent. It didn't really matter what he would do with his flips and his spinning and his crazy stuff, because the goal of it is the same, no matter what he does. It's to get you to kind of freeze and not know what you're doing, and then you freeze and he comes out of whatever he's doing, and then he hits you with something big. So I'm like, okay, I have my buddy, Radley. He's awesome. He can do all that stuff, and I just had him basically just jumping, flipping at me, doing stuff, and just moving out of the way, just not being there, not being around when he lands it. and not waste energy. And then once he stopped, once she didn't have the energy to do that anymore, then I'm like, okay, now you're in my world and you're at my pace, my fight. And that's what we did, man. We followed the game plan, we went to work, and it went exactly as I thought. Like, the only thing that I thought differently was that I would finish him. I didn't actually expect him to take me down, but that's just because I was hurting him on the feet. I was landing some big shots, and I would have knocked him out if he didn't shoot on me. I really would have. Like, his shots did not hurt me. My shots were wobbling with every single one. So just gave me more, I'm a grappler, and just gave me more confidence in my hands. Like, I've always had a good chin. I've always been tough. I've never been dropped, never been rocked, never been hurt in a fight, you know? So after he hit me with a big, big right hand, I was like, that's all he's got. That ain't going to be enough. So I can just walk you down and hit you. And he didn't like it when I was hitting him. So, you know, it's how she goes.
Yeah, and it's crazy because I feel like we kind of knew that this guy, he was a one-round fighter. Like, basically, we kind of knew, but we didn't get the chance to see it in the UFC. And just how you came in, and, like, I know, yeah, like, you're a well-trained fighter. You've got your own gym. You've been fighting for a while. And, like, we know in Canada, we've seen some Tristan Connolly. Like, so we know about you. But, like, elsewhere in the world, when the people, like, saw the matchup, saw that you were 55er moving up on a week's notice to fight, like, maybe a guy who should fight at 185. I feel like this guy, if he didn't cut all that weight, he'd be fucking crazy, and he'd be flipping all over the cage with Yoel Romero, and that would be, like, one of the most epic fights in history. But, like, I felt like we kind of knew that he was not a three-round fighter, but the way you just exposed it, man, it was amazing. Yeah. It felt like you just knew it, like, from the get-go.
And, like, I feel, you know, to be fair, it wasn't like he was totally done, totally gassed. I think a lot of guys, they took time and gave, like, he would have recovered well. But I knew that doing what he'd do, he'd burn enough energy. And the way I fight is I'm a pressure fighter. I come at you and I don't stop. So the matchup for him was really bad in that sense. Like, I think a lot of guys, I think you recover against a lot of guys, and you see the way I fought. Like, I didn't give him any room to breathe. I didn't give him any space. A lot of guys would have backed off and tried to catch their own breath, and that probably would have given him a bit more room to recover more, because it's not like he was completely done. He just couldn't keep up with me, because I put a really high pace. And so once he got kind of burnt just enough energy that I could overcome him, then he couldn't keep up and keep the ball rolling. And I started my pace, and it was just, he couldn't recover from this. He was kind of at a deficit at that point that he couldn't recover from.
Yeah, for sure. And, man, the bonus after all, and the way that, like, he couldn't qualify for it, but it was clearly the best fight of the night. So you got it. It's just like, it put an end to a night that was just so satisfying for Canadian fans. And, like I've been saying, it was your hometown. You just stole the show, man. Like, people wanted to see the main event, but I feel like since the main event, it ended in the first round. It was amazing still. Like, Gaethje's an animal, but since it ended in the first round, it's kind of like, it's the moment that we all remember. And I spoke to lots of fighters on that card, on that same podcast, and I've been saying to all these fighters, I spoke to Kyle Prepelec, Austin Hubbard, many guys, and I've been saying, like, on cards like these, like, nowadays, there's the main event and there's their stuff. And I feel like for the fans, when you look at it, there's not many, like, star power on the card, but it's still fucking Justin Gaethje and Cowboy, so you're gonna listen. And that gives room for people like you to just come in and steal the fucking show and just leave with it and, like, end up having one of probably the craziest weeks of your life, where everybody wants to talk to you, everybody wants to add you on Facebook, wants to speak to you in the DMs on Instagram, and, like, suddenly you're, like, the biggest MMA fighter in Canada, basically, when you've been fighting for a while. I feel like, don't you, like, feel like people must have known before, especially in Canada? Don't you feel like, man, if people were, like, on their shit, they would have known about you before that fight?
Well, I'm sure, you know, the hardcore fans did, and they didn't know who he was, and they were talking about me. But obviously, the hardcore fans are probably 0.1% of the fans. Like, that the casual fans had no idea. And it just kind of, one of my friends said it best. He sent me a message. He's like, man, he's like, you know, after 13 years of hard work, you're an overnight success. Like I say, it didn't feel much different. Like, once you're in there, fight's a fight. I don't really notice the crowd. I don't really notice. Like, I'm very focused when I'm in there. And like I say, interviews are interviews. Fighting's fighting. I feel like I'm awesome at both of them. So it's just now I get to make it a full-time thing rather than, well, it's always been a full-time thing, but I just get to show more people, show the world. And like I said in my interview, I'm just getting started.
Yes. So now, man, like, you've been, before your winning streak, before all of that, you had like a so-so start to your MMA career. You piled up like some weird losses, and now everything has sort of clicked right now. But still, like, we can say that you don't have like the most beautiful looking record. Like, if you compare to other debuting UFC fighters, you're not 7-1, you're not 8-0, something like that. But that qualifies you for something really special, man, and that's the BMF division. Because all these motherfuckers in that division, they don't have good records. Like, George Masvidal, his record's shit. Nate Diaz, his record's shit. And still, these guys, they're the baddest motherfuckers in the game. They don't give a fuck. And you just fought, like, somebody who gives zero fucks. You just ran after him, like, when you saw that he was gonna get tired. You just ran after him. You took him down. You did your thing. So I feel like you've just qualified yourself for a spot in that BMF division. So I know it's fictional and shit, but who's next for you in that BMF division?
Yeah, definitely. And like I said, there's, you know, you learn more from losses than you do wins, really, if you're a smart fighter. You know, there's more to take away. And, you know, like, a lot of these guys, these records going in, it's like, man, you look at who they beat, and it's like, okay, you beat a guy that's 1-3. You beat a guy that's 2-4. You beat a guy that's 0-0. It's like, well, look at the guys I'm fighting. I know I was fighting the best guys in the regional scene. I fight guys, all that were ranked, all that had winning records, I'm fighting the hardest fights I can fight. Like, these guys, I think the last 10 fights I've had were all guys that would step into the UFC and hang in there with, you know, the middle divisional problem, and I was finishing all of them. Like, I mean, I just got that fight in 5 days' notice. I was probably at 60% of what I'm capable of against a guy that was massive. And if I had a proper training camp, I would have finished that guy for sure. And now, you know, I can't wait to step back into my and show these lightweights in the UFC what I'm all about.
Yeah, for sure. And I feel like you touch a point here, because I do previews and predictions, like, for every card. It's part of the job. And like, I research like the newcomers, because I'm big into prospects. I must tell you, I'm real big into prospects. So like, the best prospect in the sports, usually I know them before they get to the UFC. But sometimes there's guys that sneak up on me. And like, there's a guy who's fighting this weekend. I don't remember his name, but he's from Georgia, not the state, the country. And I think he's fighting Brandon Davis, and he's 7-2. And I've been looking at his record, and believe me when I tell you, like, the only good guy he fought was on the Contender Series, and it was a loss. His record, man, it's like, he fought like a 2-33 guy. He fought like some fucking, like,
that's why you always gotta look at the win-loss ratio. It's, if you look at, I think, the win-loss ratio of my last 10 opponents, it was something like 160 to 50 something losses. Which for the regional season, it's insane for the regional scene. Most guys have, like, you know, they're 8-1, 10-2, 11-0. And it's like, yeah, but this win-loss ratio is like 3-27. It's like, wow, okay, what does that mean? Like, I could be 100-0 with fighting those guys. Like, I could fight them every weekend, and I wouldn't even have to, like, I could, you know, it wouldn't be any issue at all. So, you know, I decided a long time ago, I was in this to fight the best guys and be the best me I could be. And that's why I just took the hardest fights, and, you know, I've really improved because of it.
Yeah, for sure. I look at that win-loss ratio of the... What I do is when I got a prospect list, and when I find a guy, I look at the win-loss ratio of his opponents when he was fighting him, and I add it all up, and I do an average and shit, and... I'd say the best prospects, their opponents' win-loss ratio, they're over 60%. That's when, yeah, I see over 60%, I know that the guy, he's fought good guys, so he's going to come into the UFC, and yes, it's going to be a step up, but not that big of a step up compared to guys who come in who got like 33% like win ratio, like their opponents.
Yeah. I think that's exactly what you say. My opponent's win-loss ratio going in UFC, I think, was 65% or something like that. Like, I knew, like, it's hard to get someone over that in the regional scene. And also the number, like, number of fights, it was like, you know, probably 160 to, like, 50. Like, that's a lot of fights for guys, right? Like, even if it's 60% and it's, like, 20 to, or you're, like, say, 50 wins and 20 losses, that's not the same as the experience. Like, because like I say, you learn more from a loss than you win. So I fought guys that, you know, had losses, but they had a lot of wins too. And the last fight I had before the UFC was a guy named Duane Owens. And his record wasn't great. I think it was like 18 and 12. But man, he fought tough guys, a lot of tough guys. And when I fought him, man, he was one of the toughest fights I've had. Like, he was a gamer, man. I put him away in the fifth round, but he wasn't quitting for a second. Like, the ref had to stop it. He couldn't improve his position. And I was landing for a minute of unanswered blows from the mount. And he wasn't turtling. He wasn't giving his back. He was trying to block. He was trying to shrimp. He was still working. But, you know, at some point, you got to stop it. But, man, I give that guy mad credit because he's a tough son of a bitch. And, you know, I grew a lot from that fight, too.
Yeah, for sure. Those guys, like in TKO, we had Damien Lapillus. He's from France. He's the brother with Taylor, who had been in the UFC. So he's at the good camp. He's at the MMA factory. And man, he came in, I think, on like a week's notice because like one of his teammates was fighting. And he fought a guy that's fighting at middleweight, but who cut down to welterweight. And that guy's like, he's a 55er who fights at 45. And man, he just fucking wrestled the shit out of him, and he beat him, and like he doesn't have a good he's something like that, like 17-11 or 18-12, something like that. But man, just comes in with so much experience that if you've got a small thing that doesn't work well in your game, he's gonna expose it real bad. So
and, like, size, you know, obviously weight classes are important and size matters, but I get amateur heavyweights come in, like even like early level pro heavyweights that are good, I kill them. Like, they can't handle me. I'm so much better. There's no one that's too big unless their skill starts to match mine, then yeah, they're gonna crush me. But you know, amateur fighters, I beat the piss out of, no matter how big they are. It doesn't really matter. Size only matters once the skill starts to overlap, you know?
Yeah, for sure, man. And now that like all of that happened, like, how do you build up on that? Because I know that you don't want that fight to be like the high point of your career. You want it to be the beginning of something great. So how do you build up on that for your next fight?
Exactly. Like, you're only as good. Like, there's all this hype behind me right now, you know. But and people are saying all this ridiculous stuff that I should be fighting all these crazy guys. Like, man, I've had one fight in the UFC. Like, let's not get carried away. I need to be built just like anyone else. I need to start with the guys that are just into the UFC. Like, that's where I am. All that I have is, you know, that maybe that going in, maybe I might get to choose a bit more of a favorable matchup for me. But other than that, man, like, I don't want anything to do with Khabib yet. Like, I'm not there. I have growing to do. I have a lot to fucking work on. And I want to be built just like anyone else. So it's just the slow grind. Keep going, right? This is one step up. I gotta get that. When I go back to the lightweight division and fight those guys, it's gonna be another step up. I feel like a lot of the guys are gonna have time to prepare for me and study me a bit. So I just gotta basically keep the ball rolling, keep growing, keep training. Like, back in the gym Monday, man. I'm not quitting. I'm not stopping. I have a lot of work to do, and I'm looking forward to the future.
Yeah, for sure. I'd really like that Austin Hubbard matchup, man. Like, the guy he fought on the first fight of the card, fought Cal Prepelec. He's from Elevation Fight Team. He's 1-1 in the UFC. He's a complete fighter. He puts on great fights. I feel like that'd be a great matchup for you.
Yeah, and you know, I actually talked to Austin a lot. So one sec here. Yeah, I talked to Austin a bunch because he was in the hospital all week here. He couldn't leave because he got compartmentalization in his leg from leg kicks, and then it cut his leg open and leave it open all week. So, thank you. Basically all week he's been there, and I had a chance to go meet him and talk to him. Super good guy, and I talked to him and said, I think we'd be a great matchup, and he agreed, but he's going to be out for a while, unfortunately. So, hopefully, I would love to fight him once he's recovered, but by the time he's ready to fight, I want to have at least 2-3 fights in the UFC. Like, I don't want time off. I'm really hoping to get in that December card. The other guy, I can't remember his name off the top of my head right now, but the first fight on the Mexico card, he fought the two lightweights that fought. I want to fight that guy.
Yeah, the Peru, Claudio Puelles.
Yeah. I'm like, I think I'll beat the piss out of him. So
probably, man.
I want that guy.
Just don't get knee-barred in the third round, and that'll be it.
Yeah, after getting beat up, and that guy he beat in the Mexico card was, I don't know how that guy was in the UFC. He was horrible. Like, he watched that guy take him down. And, like, the fact that he couldn't finish him, I was like, man, that's pretty embarrassing. That guy's like a white belt level grappler. Like, he's nothing. So I asked for him, and they said, well, UFC is probably going to Peru next year, so they're probably going to wait for that. I was like, great. Get me someone for December. Fight him in the new year. And then Hubbard's good to go after that. Like, I think Hubbard would be a good real test. Like, I think Hubbard's really, really good. So that would be great, get through get my next fight in December, fight the guy in Peru, get through my first three fights of my contract, and re-sign. And then go for someone like Kyle, and then start to climb the ranks from there.
For sure. So now, man, let's just talk about that unified card a little bit. Let's talk about your teammate, Josh. How is it going to be for him? Hey, what's up, Josh?
How's it going,
man? Hey, did you take that fight on short notice, man, or was it planned a while? Because I just seen it.
Short notice, 11 days. I kind of was hoping to get on this card or a card at the end of September, and then fortunately someone fell out, and I stayed ready, and now here we are.
Yeah, so I'll just give me a small prediction. How is gonna go that fight?
First round knockout.
You're finding a good guy, I feel like. He's a Shave Bear guy, right?
Yeah, Hayabusa Training Center. He's well-rounded. I'm excited.
Move down here so you can see both of us.
Yeah, for sure. I'm just trying to put my face somewhere because, like, that's in your face. No, that's in Josh's face. Whatever. I'll just hold it here with my finger. That'll be perfect. It's in the middle of you.
We're getting real close.
No, not too close. Yeah, so, I know, of course, the fight you're most expecting, Tristan, is your teammate's fight, but I just wanted to know, elsewhere on that card, we've got some good matchups going on, like great light heavyweight title fight, big heavyweight fight, so what are you most looking for on that card? And maybe Josh, too, as a fan, maybe after your fight, just looking at the action.
Yeah, well, for me, obviously, the Dwyer-KB Buehler fight is going to be an interesting one because, KB's got a great record. But, he hasn't fought anyone really good. I mean, his last fight, he fought a veteran against Cody Cron. And, he looked good there. But Dwyer's going to be a good real test for him. So we'll see if he can live up to the hype.
I just want to see KB and see if he's as good as his record shows.
Yeah, for sure. I feel like KB's probably UFC bound if he wins.
Yeah, very likely. I mean, well, he doesn't have enough fights to get just straight up signed, I think. The UFC is not going to sign anyone unless they're 10-0, 11-0. He's going to have to wait for them to come back to Canada and hopefully someone gets hurt. That's pretty much the only way it happens. That's how I got in. That's how Cole got in. That's how Hakeem got in. Hakeem got in. But he was from World Series. I don't think it's going to be quite that easy. Maybe he gets a shot on Contender next summer.
If he
starches him, but that's a long way away. He's going to want to fight before then. I honestly feel that 6-7-0, 8-0, it ain't enough. They're not signing you outright for that. Like, they'll sign you short notice for that. They need someone in Canada. Yeah, okay. But to think that you're just going to get a contract and a training camp, no. you better be looking at those Canadian dates, have your medicals prepared, because you need different medicals than you'll need for the UFC. You better have it all done, because you can't get it done short notice. They better research and look into it, because there's stuff that no commission needs and you won't have done unless you prepared. And you better be in shape and ready to make weight, because they do not accept people that say, hey, I'm going to make a catch weight. That's why a lot of the time it's like, wow, they'll go over to someone in the weight class below that can make the weight. UFC does not like catch weights. They do not like, they like guys that paperwork is done and ready. When they call, say, hey, do you have all your stuff done right now? Can you give it to us in the next 10 minutes? If you can, they go to the next guy on the list. So it's not just as easy as getting signed. I don't remember the last time a Canadian was signed outright. I honestly can't. But there's Jordan. He was short notice.
It was Marc-André Barrio.
Barrio, that's right. Barrio was the only one. And, you know, Barrio's really good. Barrio, you know, he beat my buddy Brendan Kornberger, who is a beast. And, you know, like he had to beat some tough, he beat some actually really tough guys. Tougher than most do on the regional scene. And still, he's 0-2 now. Look, he's, like, you see the level. He's 0-2 in the UFC, man. He lost both of his UFC fights. So, you know, it shows the level of the UFC and how ready you better be.
Yeah, I feel like Barrio's a crazy fuck, though, man. He just, like, I know when you come in, you take what you're offered. So he had Andrew Sanchez, like, top 20 guys. Okay, you take it, you do what you can. But the fight after, he had more choices, and he still took a top 15 guy in Jotko. So I think he's angling for the Korea card, and it will be a step down in competition now. So we'll maybe get to see what Barrio's able to do against somebody who's not like one of the 20 best in the world. But
yeah, I believe Barrio can do, man. That guy, his hands are, he hits hard. And like, even I actually haven't had a chance to see his second fight, but his first fight, he lost against a tough guy. But he had him hurt, and he almost starched him at one point. So, you know, like when he hit, like Brendan, like I say, is a tough guy, and he cracked him in the first round, and he was hurt right away. And it's like I he's got potential. I think he's just had some tough fights, and it just shows, yeah, the level. Like, I really hope because the next one you find someone that he can take out, because I'd hate to see him get cut. He 0-3 in the UFC is not a good look. So. Really hoping for him. I'm a fan of, I'm a big fan, and I want to see him do well. So, hopefully, fingers crossed that he makes it big.
Yeah, for sure. And like you've been saying with like being on weight and shit, man. That's how my buddy Jesse Ronson just like got turned down from the UFC. Just came in too heavy, couldn't. They told him you won't be able to make weight, so he tried to get a catch weight and just got his ass kicked out, man.
Better to almost kill yourself and make the weight, go get killed in that first fight and to ask for a catch weight. Jesse, I talked to Jesse a lot, and I was heartbroken for him when that happened. Absolutely heartbroken. Like, I was super looking forward to seeing him. He's a super talented fighter. And then even when now at the PFL, he had an opponent, a great opponent, and last minute he fights the best guy in the division.
A tough break, man. I was devastated when I saw that matchup, because I knew, like, in the old field, there was one guy that was just going to grab Jesse and fucking grind him to death, and that was Nathan Schulte, and it just, like, everything fell apart the day before, and he just fucking fought him on 24 hours notice, and, man.
It's tough, man. The PFL, all these last-minute switches, and especially when it's like, oh, you're planning for a guy, and you get the guy in the division, and it's like, fuck, 24 hours notice, no game planning, no trying. Jesse's had a real real rough luck in a lot of his fights. Like, even when he's in the UFC, two of his, like, three split decision losses, two of them very arguably for him, against guys that are all now studs in the division. Like, Jesse's really good, and I feel like, you know, he'd do well against so many guys in the UFC. He's just, it's been bad luck after bad luck for him. I really hope that things turn around for him in these next two PFL fights. I think he's going to beat most of the rest of the guys in the in that PFL division. I think he's going to do well, and I really wish the best for him, man. We don't have enough Canadians in the big shows, and Jesse's one of the best around, so looking forward to seeing him kick some ass.
Yeah, and one final thing I wanted to tell you. I don't know if you hear it, but I feel like your post-fight interview in the cage was basically the Canadian version of "I'm not surprised, motherfuckers."
Yeah, well, it's funny because after I got taken out, they asked me, and they're like, "So, you know, I was crazy, you know, what were you thinking?" And I said, Nate Diaz knows how I feel, because I ain't surprised. It's exactly what I thought was going to happen, and, you know, I had to throw my Canadian twist on it. You know, I'm respectful, I'm nice most of the time. Still a fighter, piss me off, I'll still save my mind, you know, I'm ready for this. I can't wait to show what I'm really capable of.
Amazing, man. I'm gonna let you go. Thank you very much, Tristan. Like, you won the weekend. You made us very happy. That was so satisfying. That was amazing. And you're the man. I'm real happy that you exist right now. You're the guy we want to follow in Canadian MMA. And for Josh, man, good luck. Good luck with your weight cut, with your fight. You got a great camp. You got great buddies. So I'm confident for you. And, man, we'll be looking at it closely. So thank you. Thanks a lot, guys. And, man, have a nice one in Edmonton.
Okay, thanks so much.
Thank you very much. Look forward to kicking some more ass.
Yeah, for sure. Thank you, guys. Bye.
Yeah. See ya.
Bye. Thank you.